Chapitre 34. Les Voynix attaquèrent passé minuit. Après avoir travaillé aux cuisines pour nourrir les multitudes d'Ardis, Ada avait tenu à participer au renforcement des défenses du château. Sourde aux protestations de Pan, Loès, Pétir et Cyrus, qui connaissaient son état, elle passa plusieurs heures dans la froidure, travaillant au fossé que l'on creusait à une trentaine de mètres de la palissade. C'était une idée d'Arman et de Daeman, des douves emplies de leur précieux combustible que l'on embraserait si jamais les Voynix franchissaient la palissade, et elle regretta que tous deux ne soient pas là pour participer aux travaux. La terre gelée était si dure qu'Ada se révéla incapable d'y creuser le moindre trou, et ce, bien qu'elle fût armée d'une des pelles les plus affûtées. Pendant qu'elle essuyait ses larmes de frustration, Gréogi et Aimé s'attelèrent à la tâche, lui laissant le soin de déblayer la terre. Heureusement, il faisait noir et personne ne pouvait la voir. L'humiliation l'aurait rendue plus pleurnicharde encore. Lorsque Pétir interrompit son travail au rez-de-chaussée pour la supplier une nouvelle fois de se mettre à l'abri, elle lui répliqua le plus sincèrement du monde qu'elle préférait s'activer au sein de cette armée de terrassiers. La proximité des volontaires, ajoutée à la fatigue physique, lui remontait le moral et l'empêchait de se ronger les sangs à propos d'Arman. C'était la pure vérité. Vers 10 heures du soir, les douves étaient achevées. Ce n'étaient pas des ouvrages d'art sophistiqués. Larges d'1,50 m et profondes de 50 cm, elles étaient tapissées de sacs en plastique récupérés à Chaumes. Les bidons de kérosène, un terme récemment découvert par Arman, étaient stockés dans le vestibule, prêts à être versés et embrasés si jamais les défenseurs battaient en retraite.
« Que se passera-t-il si nous gaspillons un an d'éclairage en quelques minutes ?» avait demandé Anna.
« Nous resterons dans le noir, » lui avait répondu Ada. « Mais nous aurons survécu. »
En fait, elle n'en était pas vraiment sûre. Si les Voynix réussissaient à franchir le premier périmètre défensif, ce n'était pas un petit mur de flammes qui allait les arrêter, si tant est qu'on ait le temps de l'allumer. Arman et Daeman avaient également supervisé le renforcement des portes et des volets du rez-de-chaussée et du premier étage. Les travaux duraient depuis 3 jours, et à en croire Pétir, ils seraient bientôt achevés. Mais là aussi, Ada avait des doutes. Une fois que les douves furent prêtes, les guetteurs en poste sur les remparts, les bidons de kérosène stockés dans le vestibule et les porteurs prêts à intervenir en cas d'attaque, les fusils et pistolets à fléchettes distribués, il y en avait tellement qu'un défenseur sur 6 en était équipé, une véritable révolution sur le plan de l'armement, et le Sony dans le ciel avec Gréogi aux commandes, Ada regagna l'intérieur pour aller aider Pétir. Les nouveaux volets étaient presque finis. Ce n'était que de lourdes planches fixées aux antiques boiseries d'Ardis, auxquelles étaient cloués des verrous en fer élaborés dans la forge d'Anna. Des accessoires si disgracieux qu'Ada alla pleurer dans un coin après avoir autorisé leur installation. Elle se rappelait encore le château tel qu'il était à peine 1 an plus tôt, témoignage splendide d'une tradition presque 2 fois millénaire. Un fantastique lieu de vie et de fête, empreint de grâce, d'élégance et de sophistication. Moins 1 an auparavant, ils y avaient célébré le 99e anniversaire d'Arman, dressant une table somptueuse à l'ombre des ormes et des chênes. Les lampions poussaient sur les branches comme des fruits. Les serviteurs flottants apportaient des mets raffinés venus du monde entier. Des Voynix dociles allaient et venaient sur l'allée gravillonnée, tractant carrioles et droski, et les convives affluaient de partout, vêtus de leurs plus élégants atours, arborant leurs plus belles coiffures. Ada parcourut du regard les membres de la communauté, vêtus de tuniques grossières, les lampes à pétrole crachotantes, les sacs de couchage sur le sol et les armes posées contre les murs, arbalètes et fusils à fléchettes mêlées, la cheminée qui flambait pour dispenser de la chaleur plutôt qu'une atmosphère, les hommes et les femmes crasseux qui ronflaient devant elle, les traces de boue sur les tapis et ces hideux volets qui avaient remplacé les tentures de sa mère, et se dit
« On en est vraiment arrivé là ?»
Il semblait bien que oui. 400 personnes demeuraient maintenant à Ardis. Cette maison n'était plus la maison d'Ada, mais celle de tous ceux qui étaient prêts à y vivre et à mourir pour elle. Pétir lui montra d'autres aménagements, notamment les meurtrières découpées dans les volets pour laisser passer flèches, carreaux et fléchettes, les marmites remplies d'eau et d'huile en train de chauffer au 2e étage, et les treuils pour les hisser sur les terrasses où on les déverserait sur les Voynix si jamais ils arrivaient à proximité des murs. Arman avait pêché cette idée dans un de ses vieux livres. Elle mijotait sur des poêles de fortune installés dans les anciens appartements privés de la famille d'Ada. Tout cela était très laid, mais apparemment efficace. Gréogy entra.
Le Sony, s'enquit Ada, sur la plateforme à écumeur. Rayman et ses archers vont prendre le relais. Vous avez repéré quelque chose ?
Demanda Petyr. Ils avaient cessé de faire des rondes à la nuit tombée. Les Voynix avaient une vision nocturne plus développée que les humains et la forêt devenait dangereuse lorsque les nuages cachaient la nuit et les anneaux, si bien que le Sony était leur seul moyen de surveillance.
« Difficile d'y voir clair avec cette pluie, » répondit Gréogy. « Mais on a lâché quelques fusées éclairantes. Il y a des Voynix dans tous les coins, on n'en a jamais vu autant. »«
Mais d'où sortent-ils ? »
demanda Uru, une femme d'un certain âge qui se frictionna les coudes comme si elle avait froid.
« Ils ne viennent pas par fax ?» J'étais de garde au pavillon hier et...
On s'en inquiétera plus tard, coupa Petyr. Qu'est-ce que tu as vu d'autre, Gréogy? Il continue de transporter des rochers depuis la rivière,
lui répondit ce dernier, un petit homme aux cheveux roux. Ada grimaça. Ainsi que l'avaient rapporté les patrouilleurs en milieu de journée, les Voynix entassaient des rochers à divers endroits de la forêt. Ce comportement était nouveau chez eux. Et toute nouveauté concernant les Voynix ne faisait qu'accroître son angoisse.
« Il ne serait pas occupé à construire quelque chose ?»
demanda Casman d'une voix pleine d'espoir.
« Un mur d'enceinte ? Des abris ?»«
Non, il se contente d'empiler les rochers à la lisière de la forêt, » répondit Gréogy.
« Nous devons supposer qu'ils s'en serviront comme missiles, »
murmura Cyrus. Ada repensa à toutes les années, les centaines d'années, durant lesquelles les Voynix étaient restés confinés au rôle de domestiques silencieux et obéissants, se chargeant de toutes les tâches que les humains à l'ancienne avaient cessé d'accomplir. Ils élevaient et abattaient les animaux, surveillaient et tuaient les dinosaures recombinés et autres créatures dangereuses, tractaient Droski et Cariol comme des bêtes de somme. On disait qu'avant le dernier fax, survenu 1400 ans plus tôt, les Voynix étaient restés immobiles pendant des siècles, de simples statues sans tête pourvues d'une bosse de cuir et d'une carapace de métal. Avant que ne survienne la chute, avant que l'île de Prospero ne soit pulvérisée en mille morceaux et ne déclenche des averses météoriques, jamais de mémoire d'humain, on n'avait vu un Voynix agir de façon imprévue, encore moins faire preuve d'initiative. Les temps avaient changé.
« Comment nous défendre contre des jets de rochers ?»
demanda Ada, qui connaissait la puissance des Voynix. Kaman, un homme mince et barbu, l'un des premiers disciples d'Odysseus, s'avança d'un pas, attirant sur lui les regards de tous ceux qui s'étaient rassemblés dans le salon du premier étage.
« Le mois dernier ?» J'ai siglé un livre où il était question de machines de guerre antérieures à l'ère perdue, capables de jeter des pierres à plusieurs kilomètres de distance.
Est-ce qu'il y avait des plans dans ce livre ?
Demanda Ada.
Un seul, répondit Kaman en se mordillant la lèvre. Mais le fonctionnement de ces engins n'était pas très clair. De toute façon, ce ne sont pas des engins défensifs,
objecta Petyr.
Peut-être. Mais ça nous permettrait de leur renvoyer leurs projectiles,
dit Ada.
Kaman, essaye de retrouver ce livre et passe-le à Rayman, à Aimé, à Loès, à Cole, bref, à tous ceux qui travaillent au Cubilo avec Anna et qui sont doués pour construire des choses. Cole est parti,
dit Salas, une femme aux cheveux ras.
Il faisait partie de l'équipe réunie par Daiman. Eh bien, passe ton livre à tous les autres,
dit Ada à Kaman. Celui-ci acquiesça et fonça vers la bibliothèque.
À chaque pierre, ce sera retour à l'envoyeur,
demanda Petyr avec un sourire. Ada haussa les épaules. Elle regrettait que Daiman et les neuf autres ne soient pas là. Elle regrettait qu'Arman ne soit pas rentré du Golden Gate. Comme elle aurait voulu qu'il soit auprès d'elle.
« Allez les gars, on se remet au boulot !» lança Petyr.
L'assemblée se dispersa et Gréogy regagna la plateforme à écumeur pour superviser le décollage du Sony. Quelques-uns allèrent se coucher. Petyr prit Ada par le bras.
« Il faut que tu te reposes. Mon tour de garde, » marmonna-t-elle.
Elle entendit un étrange bourdonnement, comme si les criquets étaient revenus en plein hiver. Petyr secoua la tête et la conduisit vers sa chambre.
« Ma chambre est celle d'Arman, »
songea-t-elle.
« Tu es épuisée, Ada. Ça fait 20 heures que tu n'as pas fermé l'œil. Toutes les équipes de jour sont en train de dormir. Nous avons renforcé les sentinelles sur les remparts et le Sony continue ses rondes. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Tu as besoin de dormir. Tu es quelqu'un de spécial. »
Elle sursauta, se dégagea vivement.
« Mais je n'ai rien de spécial !»
Petyr la fixa de ses yeux noirs, où dansait le reflet fugace de la lanterne du couloir.
« Si, que ça te plaise ou non, tu es partie intégrante d'Ardis.
Pour la majorité d'entre nous, tu es l'incarnation vivante de ce lieu. Tu restes notre hôtesse, même si tu refuses de le reconnaître. Tout le monde attend tes décisions, et pas seulement parce qu'Arman est notre chef depuis des mois. Et puis tu es la seule femme enceinte parmi nous. »
Ada ne pouvait pas discuter ce point. Elle consentit à gagner sa chambre. Elle savait qu'elle aurait dû dormir, ne serait-ce que pour être utile à Ardis et à elle-même. Mais le sommeil la fuyait. Elle ne cessait de s'inquiéter des défenses, de s'inquiéter du sort d'Arman. Où était-il? Était-il encore en vie? Se portait-il bien? Lui reviendrait-il? Dès qu'ils en auraient fini avec la menace des Voynix, elle filerait au Golden Gate à Machu Picchu, et qu'on essaie donc de l'en empêcher, pour y retrouver son amant, son époux, même si cela devait être son dernier acte en ce monde. Ada se leva dans l'obscurité, attrapa le Turin dans le tiroir de sa commode et retourna se coucher. Elle ne souhaitait pas ouvrir la fonction qui la mettrait en interaction avec les images. Le souvenir de ce mourant qui se tournait vers elle, qui la regardait, était encore trop vivace, mais elle voulait voir Troie une nouvelle fois. Une ville assiégée, un refuge en état de siège. Peut-être que cela lui rendrait espoir. Elle s'allongea, posa les micro-circuits brodés sur son front et ferma les yeux. Le matin à Ilium. Hélène de Troie fait son entrée dans le grand hall du palais temporaire de Priam, l'ancienne demeure de Paris, et rejoint en hâte Cassandre, Andromaque, Hérophilée et Hypsipyle, la robuste esclave originaire de Lesbos, qui se sont massés un peu en retrait sur la gauche du trône royal. Andromaque lui jette un regard intrigué.
« Nous avons dépêché des servantes dans tes quartiers, »
murmure-t-elle.
« Où étais-tu passé ?»
Après avoir échappé à Ménélas et abandonné dans la tour un Hockenberry à l'agonie, Hélène a tout juste eu le temps de se baigner et de se changer.
« Je faisais une promenade, »
répond-elle.
« Une promenade, »
répète la belle Cassandre de cette voix avinée qui accompagne ses transes.
« Une promenade avec ta dague, chère Hélène ?»
ajoute-t-elle avec un rictus.
« As-tu au moins pris le temps de l'essuyer ?»
Andromaque fait taire la fille de Priam. Hypsipyle se rapproche de celle-ci et Hélène voit qu'elle lui empoigne le bras. Une grimace échappe à la prophétesse, un signe d'Andromaque et les doigts d'Hypsipyle s'enfoncent dans ses chairs, bientôt remplacés par un nouveau sourire.
« Nous allons devoir la tuer, »
se dit Hélène. Il lui semble qu'elle n'a pas vu durant des mois les autres membres survivants du groupe des Troyennes, ainsi qu'elles ont choisi de s'appeler, mais moins de 24 heures ont passé depuis qu'elle a pris congé d'elle pour se faire enlever par Ménélas. Outre Cassandre et Andromaque, on trouve à présent dans ce groupe de nobles dames Hérophilée, la bien-aimée d'Érée, la doyenne des Sibylles de la cité, mais celle-ci a les yeux dans le vague et semble avoir vieilli de 20 ans en l'espace de 8 mois. Son époque est révolue ainsi que celle de Priam, se dit Hélène. Comme elle se concentre à nouveau sur la politique intérieure d'Ilium, elle s'étonne une nouvelle fois qu'Andromaque n'ait pas éliminé Cassandre. Si Priam et le peuple de Troie apprenaient qu'Astyanax, le jeune fils d'Hector et d'Andromaque, est toujours vivant, que la femme d'Hector a simulé son assassinat à seule fin de déclencher une guerre avec les dieux, alors elle serait exécutée sur le champ. En fait, Hector en personne ferait office de bourreau.
« Où est Hector ?»
Hélène comprend que c'est lui que tous attendent. Alors qu'elle se prépare à poser cette question à Andromaque, Hector entre, accompagné d'une douzaine de ses capitaines et compagnons d'armes. Bien que le souverain en titre de Troie, le vieux Priam, soit assis sur son trône, à côté de celui d'Hécube désormais vacant, on croirait que le roi d'Ilium vient de faire son apparition. Les lanciers aux fiers cimiers rouges se mettent au garde à vous. Les capitaines et les héros, maculés de poussière et de sang, épuisés par toute une nuit de combat, bombent le torse. Toutes les personnes présentes, y compris les femmes de la famille royale, redressent la tête.
Hector est là.
Hélène de Troie, qui 10 ans durant a admiré sa présence, son héroïsme et sa sagesse, qui 10 ans durant s'est tendue comme une plante vers le soleil de son charisme, sent pour la 10 000e fois son cœur battre plus fort lorsqu'Hector, fils de Priam, chef de fête sinon en titre des guerriers et des citoyens d'Ilium, pénètre dans le hall. Hector a revêtu son armure. Bien qu'impeccable, il sort visiblement de son lit et non du champ de bataille. Son armure est briquée, son bouclier intact, ses cheveux sont lavés et peignés avec soin. Le jeune homme a l'air épuisé, meurtri par une plaie de lame. Après avoir salué son royal père, il s'assied sur le trône de sa défunte mère tandis que ses capitaines prennent place derrière lui.
« Quelle est la situation ?» demande-t-il.
C'est son frère Déiphobe, marqué par une nuit de combat, qui lui répond, s'adressant à lui alors même que son regard est tourné vers le roi Priam.
« Les remparts et les portes scellées sont sécurisés. L'attaque surprise lancée par Agamemnon a failli nous prendre de court, et l'absence des hommes envoyés par-delà le trou s'est cruellement fait sentir. Mais nous avons réussi à repousser les Argiens, et l'aube venue, les Achéens s'étaient réfugiés à bord de leur nef. Mais la bataille a été rude.
« Le trou s'est donc refermé ?» demande Hector.
« Il a disparu, » dit Déiphobe.
« Et tous nos hommes ont pu revenir avant cela. »
Déiphobe se tourne vers l'un de ses capitaines qui lui adresse une réponse muette.
« Nous le pensons. La confusion régnait de toutes parts, car des milliers de soldats regagnaient la cité en même temps que les artifices moravecs fuyaient à bord de leurs machines volantes. Et c'est à ce moment-là qu'Agamemnon a lancé son offensive, profitant de l'occasion qui s'offrait à lui. Nombre de nos braves sont tombés devant nos portes, pris entre les feux de nos archers et ceux des Achéens. Mais nous pensons que seul Achille est resté de l'autre côté du trou.
Achille n'est pas revenu ?
Demande Hector en relevant la tête. Déiphobe lui répond par la négative.
Il est resté là-bas après avoir tué les Amazones. Les autres rois et capitaines achéens ont regagné leur armée.
Penthésilée est morte.
Hélène comprend que le plus valeureux des fils de Priam a passé plus de 20 heures à se lamenter sur son sort, abattu par la fin prématurée de sa guerre contre les dieux.
Penthésilée, Clonia, Brémusa, Euandra, Thermodoa, Alcibia, Dermachia, Derion, les 13 Amazones ont été massacrées, sire.
Et les dieux ?
Demande Hector.
Ils se livrent entre eux à une lutte sans merci, répond Déiphobe. On se croirait revenu au jour d'avant que nous leur déclarions la guerre.
Combien sont-ils ? Demande Hector.
Érée et Athénée sont les principaux alliés des Achéens. Cette nuit, on a vu sur le champ de bataille Poséidon, Hadès et une douzaine d'autres immortels, qui encourageaient les hordes d'Agamemnon et jetaient leur foudre sur nos murs.
Le vieux Priam s'éclaircit la gorge.
« Comment se fait-il que nos murs soient encore debout, mon fils ?»
Déiphobe se fend d'un large sourire.
« Comme naguère, mon père. Pour chaque dieu qui nous combat, on en trouve un autre qui nous soutient. Apollon est là avec son arc d'argent. Arès a mené notre contre-attaque au lever du jour. Déméter et Aphrodite... »
Il laisse sa phrase inachevée.
« Aphrodite ?»
répète Hector. Sa voix glacée, tranchante, évoque un couteau tombé sur le marbre. C'est cette déesse, à en croire Andromaque, qui a tué le fils d'Hector. C'est ce nom qui a forgé l'alliance entre les plus farouches ennemis jamais connus, Hector et Achille, et décidé de la guerre contre les dieux.
« Oui, »
fait Déiphobe.
« Aphrodite lutte aux côtés des dieux qui défendent notre cause. » Elle affirme que ce n'est pas elle qui a tué notre bien-aimé Scamandrios, notre Astyanax, le maître de la cité.
Les lèvres d'Hector sont livides.
Continue, dit-il.
Déiphobe reprend son souffle. Hélène parcourt le grand hall du regard. Elle est entourée de visages pâles aux yeux brillants, captivés par l'intensité du moment.
Agamemnon, ses troupes et leur dieu tutélaire se regroupent près de leur nef noire, dit le frère d'Hector. « Durant la nuit, ils se sont suffisamment approchés de nos murs pour y jeter leurs échelles et envoyer dans l'Hadès quelques braves fils d'Ilium. Mais leur offensive était aussi prématurée que désordonnée. Le plus gros de leurs forces n'avait pas encore franchi le trou. De sorte qu'avec le soutien d'Apollon et sous le commandement d'Arès, nous avons pu les repousser par-delà la colline Bathier, derrière leurs anciennes chausse-trappes et les positions abandonnées par les Moravecs. »
Suite à un long moment de silence, durant lequel Hector, les yeux baissés, semble perdu dans ses pensées. Sur son casque poli qu'il a posé au creux de son bras, on aperçoit le reflet déformé des personnes qui l'entourent. Puis il se lève, s'approche de son frère, lui serre brièvement l'épaule d'une main et se tourne vers son père.
« Noble Priam, mon père bien-aimé, Déiphobe, le plus cher d'entre tous mes frères, a sauvé notre cité pendant que je me morfondais dans mes appartements, pareil à une vieille femme perdue dans d'amers souvenirs. Je te prie à présent de me pardonner et de m'autoriser à réintégrer les rangs des défenseurs de notre ville.
Un éclair de vie semble illuminer les yeux chassieux de Priam.
Es-tu disposé à oublier la querelle qui t'oppose aux dieux qui nous sont alliés, mon fils ?
Mes ennemis sont les ennemis d'Ilium, déclare Hector. Mes alliés sont ceux qui tuent les ennemis d'Ilium.
Es-tu prêt à te battre aux côtés d'Aphrodite ?
Insiste le vieux Priam.
À t'allier avec les dieux que tu t'es efforcé de tuer durant ces derniers mois ? À tuer ces Achéens, ces Argéens, que tu as appris à traiter en amis ?
Mes ennemis sont les ennemis d'Ilium, répète Hector en crispant les mâchoires.
Il agrippe son casque doré pour le coiffer. Sous la visière de métal, ses yeux luisent d'un éclat farouche. Priam se lève, le serre dans ses bras, dépose sur sa main le plus doux des baisers.
« Conduis notre armée à la victoire, noble Hector !»
Hector se retourne, étreint un instant le bras de Déiphobe, puis s'adresse d'une voix de stentor au capitaine et aux guerriers épuisés.
« Ce jour, nous portons le fer chez l'ennemi. Ce jour, nous poussons tous ensemble notre cri de guerre. Zeus nous offre ce jour, qui vaut plus que tous les jours de notre vie. Ce jour, nous allons conquérir les nefs noires, tuer Agamemnon et mettre pour de bon un terme à cette guerre !»
Il y a un long silence lourd d'écho. Puis c'est un véritable rugissement qui déferle sur le grand hall. Et Hélène, prise d'une subite terreur, recule d'un pas et se retrouve derrière Cassandre, qui sourit jusqu'aux oreilles d'un sourire macabre. Le hall se vide comme si ce rugissement avait tout emporté, un rugissement qui, loin de s'estomper, s'amplifie et résonne avec plus de force encore lorsqu'Hector, sortant de ce palais qui était naguère celui d'Hélène, est applaudi par les milliers d'hommes massés sur la place.
« Et cela recommence, »
murmure Cassandre, le visage figé sur son rictus.
« Ainsi reviennent les avenirs d'antan. Ainsi renaissent-ils dans le sang. »
« Tais-toi !» siffle Hélène.
« Lève-toi, Ada ! Lève-toi !»
Ada se défit du Turin et se redressa sur sa couche. Aimée était entrée dans sa chambre et la secouait sans ménagement. Ada leva sa paume gauche et vit qu'il était à peine minuit. Au dehors résonnaient cris et hurlements, le staccato des fusils à fléchettes, le grincement sourd des arbalètes. Un projectile s'écrasa sur l'un des murs du château et l'instant d'après, une fenêtre implosa dans la pièce voisine. Des reflets de feu couraient sur les vitres. Un incendie faisait rage dans la cour. Ada se leva d'un bond. Comme elle ne s'était pas déchaussée, elle n'eut qu'à enfiler sa tunique avant de suivre Aimée dans un couloir envahi d'ombres pressées. Chacune d'elles était armée et filée vers le poste qu'on lui avait assigné. Pétir la retrouva au pied de l'escalier.
« Ils ont franchi le mur ouest. Nous avons subi de lourdes pertes. Les Voynix ont envahi le domaine. »